au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur Canal Académie. Dans cette émission, nous allons à la rencontre de deux grands esprits du XXe siècle. L'un est militaire, le général de Gaulle. L'autre est homme de lettres, André Malraux, avec mon invitée Christine Claire, auteur du livre « De Gaulle, Malraux, une histoire d'amour » paru aux éditions Nil. Et nous allons, grâce à elle, découvrir deux personnalités surprenantes que tout semble opposer et que l'amour de la France va rapprocher. Deux visionnaires unis dans une commune recherche de grandeur. Et là, je vous cite. Bonjour Christine Claire.
Bonjour.
Merci d'être venue jusqu'au studio de Canal Académie.
Oui, c'est un endroit magnifique, les auditeurs. L'éditeur ne voit pas la vue, le recueillement. On y est très bien.
Merci.
Merci de m'accueillir.
Dans votre œuvre de journaliste et d'historienne du contemporain, on peut vous appeler comme ça, je crois, vous avez plusieurs fois cheminé aux côtés du général de Gaulle parce que vous lui avez consacré un livre qui s'intitule « Les De Gaulle, une famille française ». C'était paru aux éditions Nil en l'an 2000. Sur la quinzaine d'ouvrages que vous avez publiés, sans parler de vos innombrables articles dans les journaux, dans l'Express, dans Le Point, dans Le Figaro et Figaro Magazine. Alors ma première question, c'est pour m'étonner. Puisque vous avez tout de même consacré un livre à De Gaulle, vous avez forcément croisé Malraux. Pourquoi n'aviez-vous pas eu envie d'écrire sur Malraux avant ?
Vous savez, je crois qu'il y a dans la vie comme ça... D'abord, j'avais beaucoup de mal avec l'œuvre de Malraux, je dois vous l'avouer. Ses romans m'ennuyaient. Le personnage tel qu'on l'a connu à la fin de sa vie, avec sa voix sépulcrale, ses tics, tout ça ne m'attirait pas. De Gaulle, c'est autre chose. Il se trouve qu'à mes débuts à l'Express, j'avais été chargée de recherche sur ses discours, ses thèmes. Et vraiment, ça m'avait absolument passionnée. J'avais découvert un autre personnage que celui que je voyais à travers les images de mai 68, de 69, qui était ce... vieillard obèse, comme disait l'Express. Bon, j'avais découvert l'autre de Gaulle, mais je n'avais pas encore découvert l'autre Malraux. C'est un ami qui s'appelait Roger Stéphane, qui l'aimait beaucoup et qui me l'a fait découvrir tardivement. Et puis, bah, vous savez, c'est comme le grain de blé, il faut que ça mûrisse. Alors, pourquoi est-ce que ça a mûri à un moment donné ? Je me suis moi-même posé la question, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire ce livre ? Pourquoi tout à coup ? Je pense que bon, j'aime profondément la France, je veux toujours croire qu'elle va sortir des épreuves. Et toutes les périodes de l'histoire ou l'histoire récente où on me la montre plongée dans les épreuves et en ressortant, finalement, me redonne de l'espoir. Et il n'y avait pas plus propice que cette période des années 45 où il se rend compte, où la France est en ruine physiquement et moralement. On oublie souvent cet aspect-là. Et où ces deux hommes entreprennent de la redresser avec d'autres, bien sûr, autour d'eux. Mais ce qu'il y a de particulier chez eux, c'est la valeur qu'ils accordent à l'esprit. Une des premières choses que fait De Gaulle en regagnant la France, c'est de rencontrer les universitaires et les académiciens. On se dit qu'il y a autre chose à faire. Quand on a un pays en ruine, où on voit les photos avec les enfants qui ont les genoux cagneux, avec les habitations détruites, les ponts détruits, les usines détruites, la production qui a chuté de 50, 60, 70%. Enfin, il y a autre chose à faire. Eh bien non. Il y a autre chose à faire, il le fait, mais s'occupe de l'esprit. Et Malraux va être celui qui va l'aider, qui va être son prophète et qui adhère complètement à cette vision des choses. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, à partir de là, j'ai découvert cette amitié. J'ai découvert leur fragilité à tous les deux. Je ne dis pas leur petitesse, mais j'aime beaucoup les fragilités des grands hommes. Ça me les rend plus abordables et plus émouvants, surtout. Et peut-être ça crée un phénomène d'empathie. Alors j'ai essayé de travailler jusqu'à arriver à ce que m'a dit Régis Debray, qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit que c'était une empathie lucide. Voilà, j'ai essayé d'avoir une empathie lucide avec ces deux grands personnages que j'avais pris pour des dinosaures et qui sont des personnages plus que jamais d'actualité.
Christine Claire, vous me permettrez aussi de m'étonner du sous-titre « Une histoire d'amour ». Le mot « amour » entre ces deux hommes, c'est tout de même un peu surprenant. On aurait pu dire « fascination »,« admiration », »,« complicité », »,« envoûtement ». Enfin, il y avait beaucoup d'autres mots. Pourquoi ce mot un peu banal, pardonnez-moi, « amour » ?
Ben, je vais vous faire un aveu, j'ai même failli écrire « une déchirante histoire d'amour » parce que je la trouvais déchirante. Beaucoup d'histoires d'amour le sont d'ailleurs. Mais c'est plus que de l'amitié. Ils sont fascinés. Alors, comme dans toutes les histoires d'amour, il y en a peut-être un qui est plus fasciné que l'autre, plus fragile que l'autre. Je crois que Malraux est complètement fasciné par De Gaulle, en quête d'un sourire, en quête d'un mot, qu'il n'a pas toujours d'ailleurs, qu'il attend souvent longtemps, d'un signe de reconnaissance et dans une attente éperdue. Le grand esprit, qui aurait pu certainement avoir le Nobel, qui aurait pu entrer à l'Académie s'il avait voulu, qui aurait pu avoir le Nobel s'il n'avait pas été gaulliste. Donc il est dans un état de fascination, de fragilité, comme on ne lui en connaît avec personne dans sa vie, y compris avec les femmes. Sa fille m'a dit en guise de boutade, Florence m'a dit, finalement, De Gaulle est la seule femme que mon père ait aimée.
Et c'est une histoire d'amour.
C'est une histoire d'amour, de dévouement, parce que, bon, d'abord, lier son sort à celui de De Gaulle, au début, il renonce à son image d'homme de gauche. Il se met à dos nombre de ses amis et ça va durer pendant des années. Et quand De Gaulle reviendra au pouvoir avec la guerre d'Algérie, ça sera la même chose,
pire,
ou
oui.
Pire, oui. Donc, il renonce à une partie de lui-même, finalement, une partie de son amitié, de son passé, de ses engagements, tout en restant fidèle à lui-même, puisqu'il estime que De Gaulle est le seul à pouvoir faire certaines choses. Il fait des sacrifices, certainement, une partie de son œuvre littéraire pour être ministre. Il encaisse beaucoup de choses. Il n'est pas toujours d'accord. Il ne sera pas toujours d'accord, notamment, au moment de la guerre d'Algérie. Mais il accepte. Il accepte avec un amour. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai pas pu en trouver d'autres.
Alors, voilà. On est clair sur le mot amour.
Alors, du côté de De Gaulle, c'est peut-être un peu plus un amour fraternel. J'allais dire, De Gaulle est le grand frère qui protège l'autre. Il voit bien ses limites. Il le protège de lui-même. Malraux aurait aimé peut-être être ministre de l'Intérieur, être Premier ministre. Pas peut-être, sûrement, il l'a dit. Et De Gaulle voit parfaitement ses limites. Et en même temps, De Gaulle est, pardonnez-moi l'expression, parfois bluffé par cet homme qui est une sorte de médium, qui est en communication avec l'art à travers les siècles et à travers la planète, qui connaît tout, y compris ce qu'il n'a pas vu et pas entendu. Et De Gaulle dit, mais d'où tire-t-il ça? Alors, c'est comme si par Malraux, De Gaulle était en empathie, lui aussi, en liaison avec toutes sortes de forces obscures, de forces créatives qu'il pressent, parce que c'est un artiste, lui aussi, De Gaulle, et un intellectuel, mais dont il n'a pas eu le temps d'approfondir l'histoire et la vérité comme Malraux, parce que De Gaulle a une formation littéraire, philosophique,
très
historique,
solide,
très solide, mais comme tous les gens de son époque, beaucoup moins, connaît pas beaucoup moins les arts plastiques, les arts, la peinture. Enfin, on allait au Salon d'automne, c'est là qu'il rencontre Yvonne devant un tableau de Derain, mais ça, il y avait quelques rites comme ça, mais c'était pas très étendu, très approfondi, et en tout cas on n'était pas ouvert du tout sur les arts des autres continents et sur ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Et pour ça, Malraux va lui apporter une véritable révélation et une sorte de passion à lui aussi, parce que il se sent emporté par Malraux vers d'autres univers et en même temps deviné profondément par Malraux. L'image que Malraux a de lui, quelquefois Malraux sait avant lui ce qu'il va le dire, ce qu'il va dire ou faire, et en tout cas le grandit à ses propres yeux et l'oblige. Et donc il en est aussi un véritable amour. Je crois que j'ai longuement pesé ce mot.
Je m'en suis doutée, c'est pour ça que je vous interrogeais sur ce mot. Alors Christine Claire, dans votre prologue qui au fond dit tout en 7 pages, c'est extraordinaire, tout ce qui les rapproche et tout ce qui les sépare, à la page 16 justement vous dites ce qui les sépare, 11 années, c'est leur différence d'âge, et des siècles d'histoire. Avaient-ils l'un et l'autre la même conception de l'histoire, de faire partie de l'histoire et de faire l'histoire, en quelque sorte, tous les deux? Est-ce qu'ils avaient cette même conception?
Moi, je crois qu'en tout cas, elles se sont, comme dans toutes les histoires d'amour, ils se sont façonnés l'un à l'autre. Donc, ils ont fini par l'avoir. Ils se sont aussi façonnés ils se sont préparés à la rencontre. Parce qu'au fond, j'ai écrit effectivement qu'ils étaient tellement différents, ce qui est vrai. Et puis à la réflexion, je me dis qu'ils étaient quand même, comme dans les vraies histoires d'amour, ils étaient faits l'un pour l'autre, ils étaient faits pour se rencontrer. Alors, bon, c'est vrai que De Gaulle est, si je peux dire, assis sur des siècles d'histoire. Sa famille remonte quelques 12e siècle, on trouve des chevaliers, des intellectuels.
À Philippe Auguste,
voilà,
dites,
c'est
oui.
Ça, oui. Bon, Malraux, lui, bon, il se trouve vaguement une dynastie d'armateurs, mais avec Malraux, il faut se méfier parce que tout est toujours réinventé. Bon, voilà, on est dans les mensonges pathétiques, les embellissements pathétique. Bon, mais enfin, il est fils d'une épicière de banlieue, d'un père qui a été plus ou moins affairiste. Enfin, tout ça est assez enjolivé. À un moment donné, quand il est rentré en Indochine, il racontera même que son père était dans un magnat du pétrole. Enfin, bon, tout ça est réinventé. Toujours est-il qu'il souffre certainement d'un complexe social parce qu'il a conscience d'être quelqu'un de supérieur et ses origines ne lui conviennent pas. Elles sont pas à la hauteur. Mais il n'a pas été élevé, évidemment, comme De Gaulle, avec ce sens de l'histoire, de s'inscrire dans l'histoire de France, y compris des aléas, d'ailleurs, des ruines, des recommencements. Il n'a pas été élevé avec ces racines-là. Et donc, il a besoin d'un enracinement. Et ce sera De Gaulle, son enracinement. Et avant de rencontrer De Gaulle, quand je vous dis que, finalement, j'ai arrivé à la conclusion qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, c'est que, venant d'horizons si différents, Malraux, en plus, est un autodidacte, il faut le rappeler, il n'a même pas passé son bac. Mais il a beaucoup lu, et avec une mémoire étonnante, tout retenu, tout analysé, tout compris. Avant de rencontrer De Gaulle, il a aimé la France. Alors, je sais que, à l'époque, le patriotisme était chose assez répandue et que dans toutes les familles françaises, on n'avait pas besoin d'être militaire pour être patriote. Il a été élevé dans le patriotisme, mais il s'en était peut-être un peu détaché en se rapprochant des communistes, en partant en Indochine, en partant en Espagne. Et puis, c'est vraiment à travers la guerre, la brigade Alsace-Lorraine, qu'il dit ben, j'ai épousé la France. Et quand il a épousé la France, et tout naturellement, il rencontre De Gaulle.
Alors, leur première rencontre, justement, est-ce vraiment 1945 ou est-ce qu'ils se sont croisés sans se voir?
Alors, ils auraient pu se voir, certainement, parce que, bon, De Gaulle, comme vous savez, a beaucoup fréquenté des salons littéraires. Quand De Gaulle, j'allais dire, comme on dirait aujourd'hui, faisait du lobbying pour essayer de vendre son idée de char, de défense française, il allait partout, et notamment chez Daniel Halévy. Ils auraient pu se rencontrer. Et Malraux, le jeune écrivain, l'intellectuel qui montait, il allait aussi avec Clara, donc ils auraient pu se rencontrer là. Ensuite, lorsque Malraux est dans la brigade alsacienne, qui fait la campagne d'Alsace, et De Gaulle va à plusieurs reprises là-bas, passe des détachements en revue, où il va à la cathédrale de Strasbourg, et là, Malraux est derrière un pilier. Bon. Et puis alors, pendant la résistance, pendant l'occupation, Malraux met du temps à s'engager. Il n'y croit pas, il a été échaudé par la guerre d'Espagne. Il trouve que c'est une histoire de boy scout, tant que les Américains ne seront pas engagés, c'est pas la peine, ça ne vaut rien. Mais quand même, il inventera, je crois, on peut dire il inventera parce qu'on n'en a pas de preuves, il inventera l'histoire suivante, c'est qu'il aurait quand même écrit à De Gaulle pour le rejoindre à Londres. Il aurait confié le message à une résistance qui aurait été arrêtée par la Gestapo, qui aurait mangé le message et qui ne serait jamais parvenu
à
De Gaulle.
Donc on n'a aucune preuve.
Mais on n'a aucune preuve. Et même ses admirateurs et amis comme Roger Stéphane doutaient fort de cette version, oui.
Donc, au fond, Malraux va attendre, enfin, plus ou moins attendre que De Gaulle lui fasse signe jusqu'en 1956.
Jusqu'en 1945, chacun attend que l'autre lui fasse signe. De Gaulle voit les écrivains, les académiciens, 44 à 45, mais pas Malraux. Et Malraux considère encore que De Gaulle, peut-être, est un militaire fasciste, mais il commence à le regarder d'un autre œil. Et puis, il est quand même très dégoûté par les agissements communistes qu'il a pu observer de près pendant la guerre d'Espagne, et il a très envie de se rapprocher de lui. Alors ce sont, comme dans les bons mariages, ce sont les collaborateurs, ce sont des gens comme Gaston Palevski, qui est directeur de cabinet de De Gaulle, qui organise des dîners, et puis on dit à De Gaulle, Malraux a demandé à vous rencontrer, et on dit à Malraux, le général souhaiterait vous recevoir. Bon, et c'est comme ça que finalement ils se rencontrent, et que Malraux entre au cabinet de De Gaulle comme comme simple collaborateur, puis tardivement comme ministre de l'Information, mais ça va durer exactement 60 jours, puisque de Gaulle va partir en 1946. Donc, leur histoire va reprendre en 1958. Et entre-temps, ils ne se voient pas très peu. Ils se voient très peu, mais n'ont pas besoin de se voir pour être en communion d'esprit.
Et alors après, vous dites que pendant 25 ans, c'est-à-dire un quart de siècle, ils ne vont plus se quitter. C'est une façon de dire, parce que de toute manière, il va quand même y avoir des moments où Malraux va être peut-être mis à l'écart un peu.
Oui, mais on essaie toujours, je vois les comportements aujourd'hui en politique, quand on met des gens à l'écart, ils sont humiliés publiquement, d'une certaine façon. Mais là, alors Malraux est nommé à nouveau ministre de l'Information, on reprend, comme on s'est quitté, en 1958. Et puis, dès le mois d'août, le général est revenu en mai-juin, dès le mois d'août, il fait une conférence de presse pour expliquer qu'il n'y a plus de torture en Algérie depuis que le général est arrivé. Et qu'il se fait fort de le démontrer en envoyant une mission avec plusieurs Nobel, Mauriac, Camus, qui l'embrigadent comme ça, sans leur demander leur avis. Et alors évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Et on se dit, oh là là, bon, il va nous faire des gaffes, quoi, ça ne va pas aller. Alors, de Gaulle dit à son directeur, à Pompidou, qui est à son cabinet, écoutez, trouvez-moi quelque chose pour Malraux. Il faut l'exfiltrer, si je peux dire, en 24 heures, sans le blesser, sans faire un drame. Alors, finalement, on lui invente...
Il sort par le haut,
on lui invente le ministère du rayonnement français, qui deviendra, quelques mois plus tard, le ministère des Affaires culturelles.
Dont, en fait, cette année, le 50e
et alors, chose que j'ai trouvée touchante, finalement, parce que de Gaulle, lui aussi, a ses mensonges, ses embellissements pathétiques. Dans ses mémoires, de Gaulle est très précis, voilà, je nomme un tel au gouvernement, et... Il date la création du ministère des Affaires culturelles tout de suite de l'été 58. Il dit, voilà, dans mon équipe, il y a alors Malraux au tout premier rang. C'est pas vrai, le ministre de l'Information, il n'était pas au tout premier rang, rayonnement français non plus. Mais ça fait rien, il le nomme d'emblée. Comme ça, il évite cet épisode fâcheux qui aurait pu être humiliant dans les mémoires pour Malraux. En plus, il avait remis sous stèle que Malraux n'aimait pas beaucoup, qui était quand même un rival, qui était lui aussi un intellectuel, et qui avait été numéro un du RPF, ce que Malraux aurait aimé être. Enfin bon. Donc, on efface tout ça. Et il est directement ministre des Affaires culturelles.
Voilà, c'est peut-être un geste délicat.
Voilà, devant l'histoire, oui.
Christine Claire, on va marquer une courte pause. On vous retrouve dans un très bref instant.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Retour dans notre studio en compagnie de Christine Claire qui vient de publier un ouvrage intitulé « De Gaulle, Malraux, une histoire d'amour » aux éditions NIL, N-I-L. Christine Claire, j'aimerais vous poser quelques questions sur la manière dont vous avez abordé ce tandem exceptionnel. Parce que tous les deux ont écrit des mémoires. Pour Malraux, ce sont des anti-mémoires, mais c'est la même chose. Tous les deux sont le sujet de multiples biographies. Tous les deux sont évoqués dans de nombreux ouvrages de souvenirs de personnes qui les ont côtoyés, connus. Vous avez procédé aussi à des interviews. Mais comment avez-vous fait avec cette immense documentation pour en faire un livre si aisé à lire ?
J'ai fait une immersion, qui d'ailleurs a été merveilleuse et passionnante, en grande partie à la bibliothèque du Sénat, que je remercie de son accueil. Alors, c'est ce que vous dites, c'était les livres. De Gaulle, j'avais déjà pas mal travaillé sur De Gaulle, sa famille. Malraux, encore une fois, m'était inconnu, était nouveau. Et puis, bien sûr, des interviews d'amis, de membres de la famille. Et puis, ma formation de journaliste fait que je suis toujours très tentée par l'étude. Donc, j'ai étudié énormément de collections de journaux. Et ça m'a porté beaucoup pour avoir l'ambiance de l'époque. Quelles étaient les préoccupations, même quel temps il faisait ce jour-là, comment on s'habillait. quels étaient les gros titres. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est l'étude de l'humanité, en particulier dans les années 40, avec des titres énormes de 10 cm, des appels à la haine, des appels à la mobilisation.
Oui, on était farés.
On mesure là la tension de cette époque. On était vraiment, après la guerre, on était encore en guerre interne. Il y avait vraiment une tentative de prise de pouvoir par les communistes. Et c'est dans ce combat-là que Malraux était engagé. Et puis, alors, j'ai écouté beaucoup de discours, la voix, c'est très très important. Je me rappelle que Jean Aurieux, que j'aimais bien, que j'étais allée voir, une fois me disait, je commence à écrire sur mes personnages quand j'entends leur voix. Alors évidemment, là, il ne s'agit pas de Voltaire, j'ai la chance d'avoir des enregistrements, d'avoir les voix, mais faut, j'allais dire presque attendre que la voix soit intérieure, qu'on ait l'impression, à tort ou à raison, l'impression de connaître ces personnages. Et quand on a digéré toute cette masse d'informations, d'enregistrements, de journaux, de notes, d'interviews, ben on se raconte l'histoire à soi-même et on essaye d'entrer
notes,
à l'intérieur des personnages. Oui, ça, j'ai toujours eu beaucoup de carnets de notes, des montagnes de carnets de notes, mais à un moment donné, il faut, j'irais presque les oublier. Enfin,
oui, il faut s'en détacher.
Pour que le récit... Je pense toujours que c'est une histoire que je raconte à un petit-fils, par exemple.
Quels sont les entretiens que vous avez menés avec des témoins qui ont connu à la fois De Gaulle et à la fois Malraux ?
Alors, il reste encore, beaucoup. Oui, par exemple, j'ai cité Émile Biasini, qui a été un des collaborateurs de Malraux à son ministère, Pierre Lefranc, évidemment, des gens assez divers.
Lucien Neuwirth,
effectivement, Robert Poujade, qui était pratiquement les seuls jeunes. Robert Poujade, qui était le seul normalien gaulliste à son époque, quand tout normal était de gauche, voire communiste. Alors, une source extraordinaire a été Madeleine Malraux elle-même.
Oui,
femme d'André Malraux pendant 20 ans, qui d'ailleurs n'a jamais divorcé parce qu'il a quitté pour Louise de Villemorin, mais ils n'ont jamais divorcé. Et qui m'a raconté beaucoup de choses. Florence Malraux, Alain Malraux, le fils de Madeleine. J'ai des membres de la famille De Gaulle que j'ai remis à contribution, que j'avais déjà beaucoup vu pour mon livre sur les De Gaulle, une famille française.
Brigitte Friand,
qui est un personnage merveilleux, qui a été une grande résistante et collaboratrice de Malraux, qui vit en Provence, et qui, elle, avait une liberté de ton... vis-à-vis de ces héros qui étaient très rafraîchissantes. Oui.
On croise aussi dans ces pages alors un personnage tout de même qui nous est cher ici, puisque c'est l'actuel chancelier de l'Institut de France, Gabriel De Breuil, qui était un conseiller
juridique de Malraux pour mettre au point quelques textes et qui m'a un peu retracé l'atmosphère du cabinet autour de Malraux.
On croise d'ailleurs beaucoup d'académiciens dans votre livre. Évidemment, François Mauriac.
François Mauriac est comme un fil rouge, oui. François Mauriac m'a passionnée parce que, d'abord, moi, j'ai fait mes débuts à l'Express. Alors, c'était, j'allais dire, presque un clin d'œil, les bloc-notes de l'Express. En plus, j'ai retrouvé ses chroniques, ses articles. C'était merveilleux dans le Figaro et à l'Express. Et puis, il y avait un tout petit rapport de jalousie entre Mauriac et Malraux parce que, finalement, Mauriac aurait pu être ce grand homme, ce grand intellectuel aux côtés de... Il l'a été d'ailleurs en grande partie auprès de De Gaulle, sauf qu'il n'a pas quitté les lettres pour le pouvoir. Mais pour De Gaulle, il était acquis, si je peux dire. Tandis que Malraux, c'était davantage une prise de guerre. Puis Malraux, il espérait davantage une ouverture sur la gauche.
Mais, avec Mauriac aussi, il espérait une ouverture à gauche, les intellectuels de gauche.
Mais moins. Mauriac, c'était plus... Même si Mauriac a, si j'ose dire, flirté avec le FN, qui n'avait rien à voir avec le Front National d'aujourd'hui, mais qui était un mouvement d'obédience communiste, où il allait, lui aussi, à ses meetings. Mais quand Mauriac y allait, De Gaulle était fâché. Tandis que quand Malraux y allait, c'était très bien. Voilà, chacun, c'était une répartition des rôles. Alors, Mauriac, c'était quand même la famille chrétienne, unie. On pouvait le recevoir avec femmes, enfants, petits-enfants. Tandis que Malraux, c'était toujours le chat sauvage. À un moment, il a divorcé, donc puis il n'a pas de femme. Il vit avec une femme, mais il n'est pas marié avec elle. Donc,
qu'en pensait Madame De Gaulle ?
Madame De Gaulle n'en pensait pas du bien. Déjà que c'était une espèce d'aventurier. On ne savait pas trop si ce qu'il racontait vérité vraie. Il y avait eu quand même son histoire en Indochine, ce vol de statues. Bon, enfin, tout ça était quand même assez sulfureux. Et puis, mais il l'a apprivoisé. Il l'a apprivoisé parce qu'elle s'est rendue compte quand même que c'était un fidèle d'entre les fidèles. Et même un des seuls à quitter le pouvoir quand De Gaulle s'en allait, à ne pas chercher à rester dans les gouvernements de la quatrième. Alors j'en oublie, bien sûr, il y a eu des tas de témoins. Je pense à Philippe de Saint-Robert, à ses conversations avec Malraux et avec De Gaulle. Les conversations avec Malraux sur Monterland aussi, auquel il avait écrit, qui intéressait beaucoup Malraux, parce que Malraux s'intéressait au suicide de Monterland, il y songeait. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont apporté leur éclairage, leurs notes qui confirmaient ou affirmaient mes intuitions personnelles.
Non seulement vos intuitions, mais aussi les mémoires, oui. Parce que comme vous le dites, surtout celle de Malraux avait des embellissements.
Ah oui,
et
oui,
c'est
oui,
pas
oui,
très fiable. Alors pour travailler, c'est une base,
mais il faut le contre. Oui, parce que c'est vrai qu'il a. Bon, par exemple, il raconte, il va voir Mao, c'est tout. Il est reçu 6 heures. On a l'impression que c'est un sommet, alors que finalement. Bon, quand on lit bien le texte dans les anti-mémoires, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas dit grand-chose. Et puis après, quand on consulte les gens, les commentaires des journaux de l'époque, les communiqués, on s'aperçoit que non, il n'y avait rien du tout. Mais il faisait de rien, il faisait quelque chose. La même façon que sa dernière rencontre avec De Gaulle, dont il fait les chaînes qu'on abat. Ce qui mettait très en colère Pompidou, qui disait oui, en fait, il y a eu le déjeuner, les courtoisies d'usage, les banalités d'usage, le café, il est parti. Il part après le déjeuner, il dit qu'il y a des étoiles dans le ciel, comme si c'était déjà la nuit. Oui, bon, ben ça, c'est Malraux. C'est pas un sténo, c'est pas une sténo, c'est pas un comptable. Mais tout est vrai. Dans l'esprit.
Voilà, et le tout est le discerner.
Oui, mais il y a d'autres mémoires. Il y a eu les mémoires des femmes aussi. Alors, il y a Sophie de Villemorin qui a fait les dernières années de Malraux qui sont très éclairantes. Et puis, dans les autres femmes, il y a eu les carnets de Josette Clotis qui a été la maîtresse de Malraux et la mère de ses deux fils. Donc, tout ça apporte des notations, j'allais dire, plus intimes et plus familières. Dont je fais mon miel, oui.
Un très bon miel, très bon à déguster. Il y a un passage que j'aimerais, si vous me le permettez, lire, parce que je l'ai trouvé magnifique. C'est ce passage qui concerne la France et qui est comparé à une femme. C'est un joli passage qui se trouve page 164. « Je me suis longtemps demandé, dit Malraux, en se tournant sur le côté pour exhaler sa fumée, pourquoi, à vos yeux, la France a toujours été une femme ?» Évidemment, il s'adresse à De Gaulle. Et je me suis aperçue qu'elle l'était pour moi aussi, cette paysanne du Périgord avec son fichu et ses bras lourds de laitière de Vermeer. Elle avait le visage de la France, comme les femmes en noir qui veillaient nos morts en Corrèze. Et pourtant, quand elle n'est pas une toute jeune fille qui dit non, comme Antigone et Jeanne d'Arc, quand elle n'est pas une mère courage ou une Pietà, cette figure chrétienne où la compassion devient la forme la plus intense de l'amour, la femme reste pour moi une énigme. On imagine quand même assez mal De Gaulle et Malraux s'interroger sur la femme à un autre niveau.
Alors, il faut dire aux auditeurs que ça, c'est le seul chapitre où moi aussi j'ai fait mes embellissements pathétiques. C'est-à-dire que j'ai inventé une rencontre.
Vous avez inventé un dialogue.
Voilà, je me suis offert ce luxe. C'est au milieu du livre à peu près. Et dans ces années, dans cette longue traversée du désert où il se voit assez peu, j'imagine quand même que Malraux va avoir De Gaulle. Et ça se passe après la chute de Dien Bien Phu. Je l'ai situé à un moment particulier. Et il y a des tas de thèmes qu'ils ont en commun. Et je me dis, ils ont sûrement dû parler des femmes. Et alors, ce qui est merveilleux, donc je l'ai fait parler des femmes parce que j'avais envie de les entendre parler des femmes. Et alors, je n'ai appris que plus tard, que tout récemment, ah ben c'est Yves Guéna qui m'a raconté ça, que Malraux, parlant de De Gaulle, évoquait des conversations sur les femmes. Donc moi, j'étais très contente,
si
c'était pas si loin.
En tout cas, il y a un autre point commun que vous soulignez, on va peut-être en terminer là, en suggérant, plus que suggérant, en recommandant à nos auditeurs de se procurer votre livre, parce qu'on y apprend énormément de choses, non seulement sur les personnages, mais sur cette époque. L'autre point commun, c'est que ni l'un ni l'autre ne laisse de monuments à son nom, à la postérité. Alors que Mitterrand a laissé, Pompidou a laissé un musée. Enfin bon, lui, Ni de Gaulle.
Ça m'a effectivement beaucoup frappé.
De Gaulle
frappé.
A des monuments à son nom, tout de même. Des places, mais ils n'ont pas voulu construire.
Voilà. Ça m'a beaucoup frappé parce que chez Malraux, qui avait un tel sens de l'histoire, de la statuaire, des palais, des temples, enfin, quand même, participer au sauvetage des temples de Nubie, on pouvait penser qu'il voudrait laisser une sorte de temple, un monument, un musée. Et alors, je ne sais pas, ils n'ont pas eu le temps. Il a fallu rénover Paris, reconstruire. Et je pense peut-être pas le goût. Et c'est pour ça que je crois que j'écris quelque part que, pour, à mes yeux, leur cathédrale a été une cathédrale de l'esprit.
De l'esprit, voilà. C'est page 353.
Ils étaient absolument arc-boutés à cette grande œuvre. Et il fallait d'abord restaurer l'esprit. Et peut-être que la pierre était finalement...
Secondaire,
oui.
En tout cas, dans ce paragraphe, ouais. Vous développez évidemment la question qu'on aurait envie de vous poser. Qu'aurait été André Malraux sans Charles de Gaulle? Évidemment, on ne le saura jamais. Et l'inverse, et lui, le général, qu'aurait-il été sans Malraux? Vous avez une petite réponse,
oui,
tout de
j'ai,
même.
Oui, j'ai une petite réponse. Je pense passage. Qu'il aurait été tout de même le héros qu'il a été. Il était très... assez solide. Mais en même temps, Malraux l'a conforté dans une certaine image de lui-même et puis a développé en lui ce sens artistique, poétique qu'il avait. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas dites ou pas faites s'il ne s'était pas senti ainsi conforté par son prophète.
Un prophète, un héros. Je vous conseille vivement de lire le livre de Christine Claire, De Gaulle, Malraux, une histoire d'amour. C'est paru aux éditions NIL, N-I-L, NIL édition. Merci Christine Claire
d'être
venue.
Hélène,
et nous attendons avec impatience les prochains livres. À bientôt.